Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Quelle est l'importance de la sécurité sociale? La sécurité sociale, d'après ce que nous avons appris, et c'est le système d'indemnisation par l'État des citoyens victimes des aléas de la vie comme chômage, maladie, accident, vieillesse, décès. L'INSS verse de temps à autre une pension aux retraités affiliés à cette structure. Cependant, certains se plaignent de la modicité des prestations sociales. Quelle est l'importance de cette sécurité sociale? Que faire pour être affilié à l'INSS? On en parle avec M. Ambanego Jean-Pierre.
Merci beaucoup, beaucoup M. John. Je voulais d'abord faire un aperçu sur la sécurité sociale.
Oui.
C'est un ensemble de textes réglementaires et législatifs tendant à garantir l'homme, c'est-à-dire les travailleurs, contre certains risques sociaux. Comme vous l'avez dit ici, vous avez évoqué des chômages,
le décès,
tout ça, d'accord. Donc, dans la norme minimum qui est simple de réglementer l'organisation de la sécurité sociale à travers le monde, il y a 9 risques sociaux qui sont retenus. Il y a les décès, il y a les frais médicaux, il y a la maternité, il y a la vieillesse, il y a l'invalidité, il y a les risques professionnels, il y a les prestations de famille, il y a la maternité. Au total, ce sont 9. Mais pour le cas de notre pays, la RDC, nous avons ratifié, en ratifiant la convention. À la convention, nous avions décidé d'organiser 4. C'est-à-dire, il y a la vieillesse, il y a l'invalidité, il y a les risques professionnels, les maladies professionnelles, il y a les prestations de famille et les décès. Donc, en fait, c'est 5. Dans 5, sur les 5, là, c'est le cinquième service de prestations familiales. On organise seulement une de prestations qu'on appelle allocation familiale. Et cela est opérationnel dans la province du Katanga. Alors, ce que vous allez dire de l'importance que vous venez de voir, donc, ces travailleurs sont exposés à tous ces risques, donc, et il peut mourir, il peut laisser une famille, donc les décès.
Il peut connaître un
accident au lieu de travail. Donc, l'accident que le travailleur connaît sur le lieu de travail ou bien sur un certain nombre de trajets qui sont couverts par le régime, qui sont reconnus, et les victimes de tels accidents sont prises en charge par la sécurité sociale suivant certaines conditions. Alors, quant à l'affiliation, la législation congolaise demande à tout employeur, c'est-à-dire l'INSS n'affilie pas les travailleurs, il affilie d'abord l'employeur. C'est l'employeur maintenant qui va déclarer auprès de l'INSS dans les 8 jours, en principe, dans les 8 jours qui suivent l'ouverture de l'activité économique, l'employeur est obligé de se présenter dans les guichets de l'INSS, donc direction du guichet, j'ai dit direction provinciale, urbaine, bureau du district, antenne.
Pour déclarer.
Pour se faire signaler, pour dire que voilà, je viens de commencer une activité et je vais utiliser une main d'œuvre. Parce que nous considérons comme employeur toute personne physique ou morale qui utilise pour son compte à partir d'un seul travailleur. C'est-à-dire, même toi, comme tu es là, si tu as un domestique à la maison,
il faut aller les déclarer.
Il faut les déclarer parce que vous serez dans l'impossibilité de les indemniser en cas de la vieillesse, en cas de. Je ne sais pas, bon, je sais pas vos moyens, mais vous serez un peu difficile de l'indemniser en cas des risques tels que la vieillesse, les décès, les
accidents. Ou bien un accident.
Ou bien un accident. Donc, à ces moments, nous indemnisons ces gens socialement. Et cela s'est fait parce que vous avez abordé le problème de la modicité. Nous devons être conscients et essayer de noter à ce niveau que la prestation n'est pas forfaitaire. Elle se calcule suivant un certain nombre de conditions, c'est-à-dire pour la pension de vieillesse, il y a la carrière qui va entrer en jeu. Tu avais cotisé pendant combien d'années et vous aviez cotisé à quel niveau, donc les prestations. Donc, quelque chose en bref, les prestations sont proportionnelles aux rémunérations et à la carrière. Donc,
à propos de la cotisation, c'est l'entrepreneur qui doit aller verser régulièrement à l'INSS la part de ses travailleurs ou il revient à l'employé lui-même d'aller effectuer ses démarches.
Non, c'est-à-dire l'employeur, l'INSS ne reconnaît pas les travailleurs, l'employeur.
Traite seulement avec
les employeurs. C'est l'employeur qui est responsable des cotisations vis-à-vis de la totalité des cotisations. Pas dans les taux de cotisation, parce que là c'est une matière assez technique, dans les taux de cotisation, parce que les cotisations se font suivant un taux. Et le taux, c'est en rapport avec les services, quoi. Pour la vieillesse, le taux est de 7%. Alors ici, il y a deux parts. Il y a la part patronale, parce que c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. Et là, l'employeur cotise pour le code du travailleur. À concurrence de 3,5%, et le travailleur lui-même aussi cotise, ça fait 3,5%, ça fait 7%. Alors dans le cas des risques professionnels, c'est l'employeur qui prend en charge la totalité du taux de cotisation, c'est-à-dire 1,5%. Alors dans la province du Katanga, c'est l'employeur qui est responsable de cotisation pour la branche des allocations familiales. Là, il cotise en concurrence de 4% de rémunération perçue par les travailleurs. Mmh. Alors, ce que je disais, c'est quoi? C'est l'employeur, bien qu'il y a des retenues, sur la rémunération de l'employeur,
de l'employé,
mais c'est l'employeur qui est responsable des cotisations vis-à-vis de l'INSS. C'est comme ça que nous ne voyons pas les employés, nous voyons seulement les employeurs.
Ok, vous voyez, je me rappelle dernièrement, on avait parlé de certains agents de la Bralima à l'Équateur, à Mandaka, qui étaient mis en retraite de manière anticipative et ils réclamaient leur retraite, les prestations sociales à l'INSS, qui n'étaient pas en mesure de payer parce que leur rente des services parce que l'INSS ne paye pas d'une manière anticipative.
Bon, de toute façon, je vous avais dit en passant que nous payons souvent un certain nombre de conditions.
Oui.
Pour la pension de vieillesse d'abord, tout à l'heure, lorsqu'on partageait l'âge, je vous avais dit ce qu'on appelle période de stage. C'est-à-dire pendant les 10 dernières années précédant l'âge d'ouverture du droit, pour la pension de vieillesse, l'ouverture du droit, les travailleurs doivent justifier au moins quelques mois d'assurance. Donc, il doit avoir travaillé entre 55 ans et 65 ans. Et lorsqu'on vous met en retraite anticipée, ça, c'est une très bonne chose. Ça dépend plus de l'employeur. C'est l'employeur qui est bien placé pour dire comment est-ce qu'il a mis ces gens...
Est-ce reconnu par la loi? Une retraite...
C'est une retraite anticipée. Mais nous, chez nous, là, lorsque nous disons vieillesse, nous attendons les gens qui sont fatigués, qui ont déjà atteint l'âge d'admission à la retraite. 65 ans. L'âge s'est stabilisé à 65 ans. Alors, lorsqu'on venait introduire les dossiers, nous allons commencer à examiner le dossier. Est-ce que le monsieur réuni, il avait cotisé pendant les 10 dernières années, la période de stage que je disais, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que voilà, il faut réunir une période de stage. La période de stage, c'est 10 ans. Et justifier le mois d'assurance. Lorsque vous justifiez un minimum de 60, c'est à ce moment que nous vous prenons en charge jusqu'au décès, jusqu'à la mort du retraité. Mmh. Et à sa mort, s'il a une veuve ou bien des enfants en âge de solidarité, ou bien s'il a deux invalides, nous les prenons en charge.
Vous prenez en charge la scolarité des enfants
Non, pas la scolarité. On va leur donner quelque chose qu'on appelle prestation, qu'on appelle pension, parce que nous payons les pensions dans les cadres de la branche des pensions. Donc, il y a la pension de vieillesse, il y a la pension d'invalidité, il y a la pension des survivants. La pension des survivants, la pension des survivants intervient lorsqu'il y a un bénéficiaire qui est décédé. Et actuellement, nous sommes allés plus loin parce que maintenant, nous sommes en train d'examiner, de voir dans quelle mesure nous allons commencer à prendre en charge les enfants des travailleurs qui meurent au cours de la carrière pour une maladie autre qu'une maladie professionnelle et ou bien un accident de travail. Donc, c'est vraiment une grande innovation.
Par exemple, le cas des SIDA.
Oui, mais si arrive à mourir de SIDA, c'était un travail, il avait cotisé. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons commencer à prendre ces enfants en charge.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Monsieur Jean-Pierre Ambanengo, vous êtes suivi partout à travers la République, même en dehors de nos frontières, et les auditeurs appellent dans cette émission pour poser des questions, et vous êtes là pour apporter des éclaircissements. Nous avons par exemple en ligne Monsieur Kalema depuis Goma. Monsieur Kalema, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Bon, je voudrais seulement demander à ce monsieur-là de l'INSS.
Monsieur Jean-Pierre.
D'être un peu sérieux. Parce que tout ce qu'il raconte là, ce sont des histoires. Concrètement, sur le terrain, rien ne se réalise. Je peux prendre le cas d'un de mes frères, avec qui on travaille à l'OGE Frère. Il a cotisé pendant 25 ans. Et il est décédé. Nous sommes passés à l'INSS pour demander qu'est-ce qu'on doit faire. Arrivé là-bas, on nous a compliqué. On a dit que non. Les métiers pour bénéficier de la prestation de l'INSS, il faut qu'il ait atteint au moins l'âge de 65 ans. Alors on ne comprenait plus quelqu'un qui a cotisé pendant 25 ans. Et quand ça arrive le moment de payer ce qu'il a cotisé, on lui dit qu'il devrait atteindre l'âge de 65 ans. Alors tout le monde connaît que l'espérance de vie au Congo est de 35 ans. Mais quelqu'un qui a cotisé quand même, il est mort à l'âge de 59 ans. on refuse de payer à sa famille ce qu'il a cotisé. Ce n'est pas du tout sérieux.
Merci.
Monsieur Nessé peut nous donner des explications.
Merci, monsieur Kalema. Jean-Pierre, vous avez la parole.
Bon, c'est un problème. C'est un problème qui existait réellement, mais comme je viens de le dire tout à l'heure, nous venons de trouver une solution. Il y a un atelier, nous avons essayé d'organiser ça, je crois maintenant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il était décédé, quoi. À ces jours, ça je vous l'ai dit, on a essayé de réfléchir, on a trouvé que ça valait la peine pour qu'on puisse commencer à prendre en charge les enfants survivants, tout comme la veuve de monsieur qui meurt dans ces conditions-là.
Voilà, donc vous avez suivi M. Kalema, donc passé au service de l'INSS Goma, parce que déjà on peut prendre en charge ce genre de cas. Narcisse en ligne depuis Kananga, au Kasaï Occidental, bonjour.
Bonjour, comment
va? On vous écoute.
Bon, ma question est comme suite. Ok, bon, votre invité a dit que la location familiale est seulement opérationnelle au Katanga. Mais pourquoi au Katanga pas dans toutes les provinces?
Bon, si je peux vous répondre, ça dépend. C'est un problème. L'organisation de cette branche remonte pratiquement avant même l'accession du pays à l'indépendance. C'était plus pour éviter la discrimination, quoi. Parce qu'à un certain moment, il y a les employeurs qui refusaient de prendre en charge les travailleurs qui avaient une charge importante. Et je vous dis que les allocations familiales, les prestations de famille, ce n'est pas vraiment un risque. Mais c'est une façon de contribuer, c'est une forme de solidarité entre les personnels, le personnel actif. Donc c'est pas vraiment un risque. Donc nous avons hérité cette situation de la colonie et les études sont en vue pour voir dans quelle mesure on pouvait l'étendre sur toutes les provinces. Et là, je vous garantis, vous pouvez consulter la législation et la législation a prévu même des études qui devaient être menées pour qu'on puisse l'étendre dans toutes les provinces de la République.
Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est opérationnel seulement au Katanga.
Seulement au Katanga.
Ouais. John Peter nous appelle depuis Isiro. Bonjour. John Peter, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Ok. Ici en RDC, la retraite est considérée par beaucoup de gens comme une descente aux affaires pour la simple raison que quand on devient passionné, ce que l'on va gagner sera peut-être le 1/10 de ce que ceux qui travaillent à l'INC se gagnent par mois. Et c'est décourageant dans ces conditions. Qu'est-ce que votre invité là-bas peut nous donner comme solution à cette situation qui est vraie, de ce qui ne peut pas me contredire?
Merci beaucoup. J'ai dit quelque chose en passant ici. Si vous m'aviez bien suivi, j'avais dit que la pension n'est pas à l'INSS, on l'attribue pas d'une manière forfaitaire. C'est ce que vous avez mérité. Et tout ça repose sur la politique salariale. Et chaque entreprise a sa politique salariale. Nous sommes ici à Kin, il y a des gens à titre... Je peux citer des exemples, il y a certaines entreprises qui vous payent des bons salaires et là on retrouve des bénéficiaires qui atteignent à ces jours, ce que j'ai pu traiter il y a 3 ou 4 mois, 9 000 $ par trimestre.
Par trimestre.
Par trimestre. Par contre, il y a certaines entreprises qui sont incapables de payer des bons salaires. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ça arrive à l'INSS? La prestation calculée est autour de 10 000. Comme la loi nous dit que voilà, nous devons payer au minimum, on doit les relever, les ramener au minimum qui est à ces jours, vous connaissez, 43 680 divisé par 3. Vous avez au moins une idée. Mais lorsque nous calculons la prestation qui est inférieure à ces montants-là, nous sommes obligés de les ramener au minimum. Et lorsque nous faisons tout ça, nous devons aussi protéger et songer à la viabilité de la caisse. Donc les prestations ne se distribuent pas, les prestations se méritent. Donc l'INSS a s'approprié en tant qu'entreprise à sa politique salariale. Et là aussi tu avais presté et cette société à sa politique salariale.
Donc tout dépend de la politique
salariale de votre société. Ouais. Si on paye des bonnes prestations, excusez-moi, je peux vous dire, vous n'êtes pas un petit enfant, vous savez les entreprises qui payent mieux. Alors essayez un peu de demander, essayez un peu de passer dans les guichets de l'INSS pour demander quelle est la prestation qu'on va calculer ces pour ce monsieur. Il aura droit à combien? Vous verrez que peut-être c'est 100 fois plus que c'est 100 fois plus le 14 000 là. Hein, parce que lorsque je vous dis qu'il y a des gens qui touchent à ces jours, que j'ai calculé, que j'ai maîtrisé tout ça, 9 000 $ le trimestre, donc divisé par 3, ça fait 3 000 $. 3 000 $ à ce jour, c'est 2 700 000. Donc par rapport à 14 000, voyez un peu le cas, voyez un peu le rapport, quoi. Et dire que nous sommes en train de flouer, peut-être, je ne sais pas si j'étais bien compris, je vous dirais seulement que
sachez que vous cotisez au taux de 3,5% pour la DS. Hein? Et il y a ton employeur qui ajoute de 3,5%, ça fait 7%. Mais nous, à la retraite, pour la pension des DS, après 30 ans de carrière, tu peux attendre, t'attendre au moins à 50% de la rémunération mensuelle moyenne. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? Les rémunérations mensuelles moyennes s'obtiennent par la moyenne de rémunération des 36 derniers mois. Entre nous, soyons sérieux, les 36 derniers mois, c'est quoi? C'est la période où le travailleur atteint le sommet dans les 90% des cas, quoi, parce que tu as fait toute ta carrière. Nous allons nous contenter juste des 36 derniers mois. Peut-être que tu étais engagé huissier, à ce moment tu vas te retrouver directeur. Nous allons faire allusion aux mois antérieurs, nous nous contentons seulement aux 3 derniers mois, où le travailleur a atteint les niveaux les plus élevés de sa carrière. Quoi.
Oui. Voilà. Blaise nous appelle depuis Kisangani. Bonjour Blaise.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, j'ai voulu poser une question. J'ai voulu lui demander parce que si un travail s'est inscrit à la sécurité sociale, alors déjà après son inscription, il est mort. Quel serait l'espoir de sa famille ou bien la veille et ses offres?
Blaise, est-ce que vous avez une radio allumée à côté de vous? Veuillez réduire sensiblement le volume et poser encore la question parce que là, on n'arrivait pas à vous capter très bien.
Oui, j'ai voulu poser une question à M. Jean-Pierre.
Oui.
Question d'un travailleur qui s'est affilié à la sécurité sociale.
Oui.
Après son affiliation, il est mort. Alors, quel serait le sort de sa famille, la veuve et les enfants?
Voilà, merci pour la question, vous avez suivi?
Je vous ai suivi, mais juste après son affiliation, c'est-à-dire parce que lorsque nous payons les prestations, il y a un certain nombre de conditions que le travail doit réunir, quoi. Il vient de s'affilier, il ne présente peut-être aucun mois d'assurance, et là, dans ces cas, il ne peut pas s'attendre à quelque chose. Mais ça peut arriver que le travailleur qui a travaillé, parce que ça rencontre pratiquement la préoccupation d'un ami, je crois, qui vient de poser la question à Goma, quelqu'un qui meurt au cours de la carrière, et qui n'arrive pas à atteindre 105 ans, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit, lorsque les travailleurs à 105 ans, là, ça ne pose aucun problème parce que nous allons prendre ça en charge et essayer un peu de voir d'entrer en détail. Mais actuellement, il y a les autorités en place ont organisé un atelier. Nous avons essayé un peu de décortiquer ces problèmes et nous sommes rendus compte qu'il faut songer aux enfants, aux ayants droit qui sont restés, c'est-à-dire il y a la veuve et les enfants.
Et là, l'INSS va prendre en charge la famille, la veuve et les enfants pendant combien de temps?
Maintenant, ça, on va voir sous certaines conditions, parce que pour prendre en charge la veuve, ça dépend de son âge d'abord. On ne peut pas prendre en charge la veuve jusqu'à sa mort, une veuve qui a 50 ans. Ça, c'est un. On va lui payer une allocation unique, qui est une prestation qu'on donne aux veuves qui ont moins de 50 ans. Mais lorsqu'elle a plus de 50 ans, l'INSS la prend en charge jusqu'à sa mort. Hein.
Jusqu'à sa mort. Voilà, Blaise en ligne depuis Isiro. Bonjour Blaise.
Oui, bonjour, c'est plutôt Freddy.
C'est Freddy en ligne, vous avez la parole?
Oui, j'ai une petite question à poser à l'invité. Je ne sais pas pour s'affilier à l'INSS, c'est une obligation ou un choix. Et deuxième question, j'aimerais encore savoir que si pour s'affilier à l'INSS, ça peut s'affilier à combien d'années ou l'âge?
Merci beaucoup. Et je vous dis déjà au départ. L'affiliation à la sécurité sociale est une obligation légale. C'est légal. Hein? Donc, tout opérateur économique, toute personne qui ouvre une activité, il est obligé dans les 8 jours qui suivent de se faire affilier auprès de l'INSS. Et par l'entremise de son employeur, par l'entremise de cet employeur, l'employeur doit arriver à déclarer tous les travailleurs qu'il occupe, donc on va les immatriculer, il va communiquer, il y a des sites de formulaires que l'INSS va lui remettre pour qu'il puisse remettre à ces travailleurs. On va attribuer à ces derniers un numéro qu'on appelle numéro d'immatriculation. Et il va garder ce numéro d'immatriculation pendant toute la durée de sa carrière, c'est-à-dire jusqu'avant qu'il atteigne 65 ans. Alors, il y a un aspect que vous aviez abordé, pour quelqu'un qui a déjà été affilié, il peut souscrire l'assurance volontaire au cas où il perdait son emploi, quoi. Mais c'est sous certaines conditions. Donc, il faudra qu'il arrive à justifier au moins 5 ans d'assurance dans les régimes normaux, et après, il souscrit comme un assuré volontaire.
Mais il y a certaines personnes qui, au bout de quelques années, quittent cette entreprise pour aller dans une autre, ils quittent la banque pour aller dans une autre. Alors, pour une telle personne, comment l'INSS organise tel temps?
Je profite de l'occasion pour dire que lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous trouvez que ça ne va pas, vous allez ailleurs, tout ce que vous allez demander, c'est quoi? C'est l'attestation des services rendus auprès de cet employeur. Et nous, comme nous reconnaissons plus l'employeur, au moment de la retraite, vous allez introduire toutes les attestations qu'on vous a délivrées par 100 ou 1000 employeurs.
Oui.
Parce que ça fera partie de votre carrière. Et la carrière, comme j'avais dit tantôt, la prestation est proportionnelle à la carrière et à la rémunération. Donc, il ne faudra pas perdre une attestation parce que lorsque vous perdez l'attestation, ça devient aussi, pour nous, ça devient un peu difficile pour qu'on puisse prendre en compte le que vous avez passé cet employeur.
Savez-vous que vous pouvez faire entendre votre voix et exprimer votre opinion et que la radio Okapi vous en donne la possibilité? Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Retrouvez Pierrot Elameji et toute son équipe dans Parole aux auditeurs.
Voilà, nous avons ici la question de... il s'appelle... il n'a pas donné son nom. Non, c'est Darius, depuis Bukavu. Mm-hmm. Il dit ceci. Chaque mois, on retient des frais de contribution par l'INSS, mais les concernés ne reçoivent rien à leur retraite. Les cas sont criants. Darius, depuis Bukavu. Monsieur Jean-Pierre.
C'est-à-dire, les retenues se font chaque mois, mensuellement. Mais quand on prestation, nous payons une fois le trimestre. Je crois à ces jours, vous n'avez pas à vous plaindre là-bas, Bukavu, parce qu'on a essayé un peu d'apurer tous les arriérés qui remontaient depuis de 10 ans, on a déjà apuré. Mmh. Alors... pour prétendre aux prestations de l'INSS, je l'avais dit au départ, il faut réunir un certain nombre de conditions. Pour la vieillesse, parce que c'est que la population connaît surtout, c'est surtout la pension de vieillesse, et cette pension est plus réservée aux personnes qui ont 65 ans. Donc, avant 65 ans, je crois que vous n'êtes pas encore concerné par l'INSS.
Et pour les autres allocations, au-delà, à part la pension de la vieillesse, là, vous avez parlé aussi d'un certain nombre d'allocations ici.
Exactement. Donc,
les autres, l'invalidité, tout ça, les accidents, au lieu de service, ça, vous ne prenez pas en charge?
Non, bon, j'ai vu maintenant entrer en détail, quoi. Parce que j'avais dit, dans l'organisation actuelle de l'INSS, il y a trois branches. Il y a la branche des pensions. D'une manière vulgaire, on appelle ça pension. Le tout, on l'appelle pension. Or, dans la pension, il y a trois sortes de prestations. Il y a d'abord la pension de vieillesse, c'est qu'on alloue aux personnes qui ont 65 ans. Mm-hmm. Il y a la pension d'invalidité. Et cette pension est allouée aux gens qui ont moins de 65 ans, mais qui présentent une invalidité. Cette invalidité doit d'abord être établie par le médecin de l'employeur qui l'a utilisé.
Mm-hmm.
Et après, il introduit la demande parce que nous sommes dans un régime déclaratif. Tout s'est fait sur base des supports que nous appelons formulaires. Donc, demande de pension de survivants, demande de pension d'invalidité, demande de pension de vieillesse.
Mmh.
Donc, vous allez introduire cette demande. Vous dites que le monsieur est devenu invalide, l'ancien travailleur est devenu invalide. Il se présente dans nos guichets. Peut-être nous pouvons nous rendre chez l'intéressé s'il est incapable de se déplacer pour le ramener auprès de notre médecin conseil.
Voilà. Monsieur Jean nous appelle depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole?
Oui, bon, j'ai une question. Il faut que l'invité éclaircisse son langage. Nous ne sommes pas du domaine. On ne comprend pas ces calculs-là. Alors, moi, j'avais un oncle qui travaillait à la DGI, mais après sa mort, sa rémunération est réduite. Qu'est-ce qui fait cela?
Il travaillait d'abord où? À la DGI?
À la DGI, oui.
Direction générale des impôts?
Oui, oui.
Ah, mais non. La direction générale des impôts ne fait pas partie du régime. Le régime général ne s'occupe pas de la direction générale des impôts. Et ils sont gérés par un régime qu'on appelle régime particulier. Ils sont des fonctionnaires.
Mais qui doit être jugé alors par la...
L'INSS assure le personnel qui est assuré, qui est régi par le code du travail. En termes clairs, c'est ça.
Donc, la DGI a...
La DGI, non, la station du régime particulier, ils sont gérés par la fonction publique.
Par la fonction publique. Winston nous appelle depuis Siro, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à votre invité. Bon, j'ai des préoccupations. La première préoccupation est la suivante. Est-ce que c'est obligatoire vraiment de s'affilier à l'INSS? Ça, c'est ma première préoccupation.
Oui.
Et la seconde préoccupation, c'est de savoir quand quelqu'un est déjà affilié et qu'il est... dans une situation de capacité, quand est-ce qu'il va attendre combien de temps pour qu'il soit servi par l'INSS?
Monsieur Jean-Pierre.
Bon, Ta première préoccupation, je crois que je l'avais déjà répondu. L'affiliation à la sécurité sociale est une obligation légale. Ça, c'est reconnu au niveau du code de travail, au niveau de la loi qui gère. Donc, c'est une obligation légale. Alors, ça dépend maintenant de quel secteur que vous évoluez. Si vous êtes dans l'administration publique, là, je suis pas mieux placé pour aborder ce genre de questions. Mais quant aux personnes qui sont gérées par les codes du travail, ils savent, je vous l'ai dit, et je vous assure, je vous garantis, vous êtes, l'employeur est obligé de s'affilier et, par l'entremise de l'employeur, déclarer mensuellement, immatriculer ses travailleurs auprès de l'INSS. Ça, c'est un. Et la LDS, c'était quoi encore? Je n'ai pas noté ça.
Il parle de l'incapacité.
Mais lorsque l'incapacité déclare, vous vous présentez chez votre employeur, c'est l'employeur qui va constater que vous êtes devenu incapable, il amorce la procédure. Peut-être pour raison de vulgarisation, comme la vulgarisation n'arrive pas à atteindre toute la couche de la population, mais il y a un bureau ici, je sais qu'il y a un bureau de district là-bas, il doit se présenter au bureau de district, on lui dira qu'est-ce qu'il faudra faire, quoi. Sinon, au début de l'incapacité, l'employeur, tout comme les travailleurs, est tenu de se présenter dans nos guichets, il y a des formulaires appropriés, et l'INSS ne fera que faire la contre-vérification, parce qu'il n'y a qu'un médecin qui est habilité à dire que voilà, le monsieur est devenu incapable de tout ça. Et dans ces moments-là, lorsque nous vérifions et c'est fondé, nous procédons au calcul.
Voilà, la dernière question de Georges à Kinshasa. Pourquoi ne pas créer une entreprise privée pour la sécurité sociale, comme ailleurs?
Je ne sais pas, peut-être là, c'est le cas de libéralisation, mais jusqu'à la preuve du contraire, l'INSS est devenu un établissement public, et c'est nous qui s'occupons de tous les personnels qui sont régis par le code du travail. Par le code du travail, s'il te plaît. Oui, et la création de cette entreprise ne dépend pas de nous. Moi, je suis un simple travailleur dans l'organisme gestionnaire. Ça dépend pas de moi, ça dépend plus de partenaires sociaux, notamment les employeurs, les confédérations, regroupement des employeurs auprès.
Comment ça s'appelle?
L'AFEC. L'AFEC. C'est-à-dire qu'il y a les représentations des employeurs, des travailleurs, c'est-à-dire sous les labels des syndicats, et il y a aussi le gouvernement. C'est le tripartite qui va décider. Ce sont eux qui doivent décider.
Voilà. Jean-Pierre Ambanengo, directeur à la direction urbaine de l'INSS Kinshasa. Merci.